Je vais maintenant me tourner vers Ariane. Vous représentez la Fondation Massif. Merci d'être parmi nous. Vous êtes chargée de programmes nationaux à la Fondation Massif. Et vous êtes venue nous présenter la manière dont votre fondation souhaite soutenir aujourd'hui les coopérations territoriales au service de la transition juste. On va vous laisser nous raconter de quoi il s'agit, pourquoi vous avez pris cette décision de changer un peu de braquet, de dire que ce n'est pas juste des projets qu'on soutient, mais vraiment on veut que la question de la coopération elle soit traitée différemment et on a envie de soutenir tout ce qui tourne autour de l'effort à faire pour coopérer. Qu'est-ce qui vous a amené là? Comment vous avez décidé de changer et de mettre ça en place?
Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, moi, je viens vous raconter un peu l'histoire qu'on a vécue ces deux dernières années à la Fondation Massif. Vous partagez un peu cette expérience. Parce que soutenir et accompagner des coopérations, financer et accompagner des coopérations territoriales, on avait une petite expérience d'accompagnement de projet en plus du seul financement, mais ça nous a demandé un vrai changement de logiciel. En fait, on s'est formé sur presque 2 ans maintenant pour acquérir un peu la culture de la coopération dont on parlait. C'est pas seulement une méthode de travail, mais c'est aussi une façon d'être ensemble et ça nous a pris du temps. Donc on est par exemple accompagné par le labo de l'ESS pour avoir aussi les experts de la coopération à nos côtés. Je vais vous dire peut-être quelques mots sur la Fondation Massif que vous connaissez peut-être ici en Alsace. C'est une fondation qui a plus de 30 ans, qui a été fondée donc par la Mutuelle d'Assurance Massif. Donc en cela, on est la Fondation est actrice de l'économie sociale et solidaire. On fait partie de ce grand monde avec les coopératives, les associations et d'autres acteurs. Et voilà, en tant que partenaire dans les territoires, actrice de l'ESS, on soutient environ 150 projets. Mais plutôt de manière individuelle. Donc les porteurs de projets pour nous sont des associations qui travaillent pour en direction des publics fragiles. Donc on définit la fragilité de plein de manières, territoriale, socio-économique, en termes d'autonomie. Mais voilà, nous, la façon dont on a soutenu, dont on soutient encore, parce que les coopérations ne viennent pas remplacer les projets qu'on soutient individuellement, mais ces projets-là, c'est un porteur de projet, et c'est plutôt sur une année, en région en tout cas. Donc les coopérations, dans ça, c'est assez différent de ce qu'on fait habituellement. Et donc la chance que l'on a, c'est d'avoir 10 chargés de mission dans les territoires. Il y en a 13, je fais partie des 3 au niveau national, mais on a 10 personnes qui sont présentes dans les régions, dont Martine Fournier pour la région Grand Est qui est ici, donc vous pourrez aussi échanger avec elle tout à l'heure. Et la chance qu'on a, c'est aussi, donc je le disais, il y a du financement de projets, mais il y a aussi de l'accompagnement. Et le fait d'avoir une personne dans chaque région, ça permet de connaître les besoins des habitants, de connaître aussi le tissu un peu de l'ESS, les CRES, France Active, les associations, les partenaires publics. Et donc d'accompagner, de conseiller, de surtout créer du lien entre l'association qu'on soutient individuellement, mais aussi les autres assos du territoire, les partenaires publics, etc. Et donc quelque part, je le disais, historiquement, on soutient des projets individuellement, mais on a quand même dans notre ADN ce goût de la mise en lien et on joue, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé, pour répondre à votre question, dans les coopérations territoriales. On est souvent ce trait d'union, un peu ce tiers de confiance. On parlait tout à l'heure c'était l'étranger qui vient apporter un regard nouveau sur les ressources. Et c'est vrai que parfois, et ça se joue aussi dans les Vosges où on accompagne une coopération, le fait d'arriver dans une dynamique de coopération, on essaye aussi d'apporter un regard un peu différent. Et donc voilà, on soutient des coopérations parce qu'on a cette volonté d'accompagner en plus du seul financement. Et notre orientation emblématique, c'est indiqué ici, c'est-à-dire que plus de la moitié de notre dotation, plus de 50% de 3,4 millions d'euros chaque année, va vers la transition écologique juste. Et ça, je ne l'apprendrai à personne, mais sur la transition écologique juste, on ne peut pas fonctionner tout seul. On a besoin de croiser les regards, de croiser les compétences et aussi les ressources, parce que les financements publics se raréfient à minima, et donc que les financeurs privés sont de plus en plus sollicités. Et nous, on est un financeur privé, et c'est vrai que sur la transition écologique juste, on nous demande beaucoup, on est de plus en plus sollicité par des associations qui sont en manque de moyens. Donc pour toutes ces raisons, le besoin de coopérer sur la transition écologique juste et notre ADN un peu d'accompagnement, on s'est lancé dans les coopérations territoriales il y a 2 ans. Et je vais vous dire un petit peu plus en quoi ça a consisté pour nous.
Donc vous nous avez parlé des constats qui vous ont amené à modifier la manière dont vous soutenez les projets ou la nature des projets aussi que vous soutenez peut-être. Qu'est-ce que ça a changé pour vous aussi dans votre positionnement, dans votre travail? Vous avez dit que vous vous êtes formée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça a fait évoluer dans vos propres organisations et dans vos façons de travailler?
La grande différence pour un financeur accompagnateur, quand on soutient une coopération territoriale, c'est que, premièrement, ce n'est pas un partenaire, un porteur de projet, mais plusieurs acteurs. Donc ça, déjà, ça change vraiment la façon de travailler ensemble. Et ce n'est pas seulement de travailler, c'est pas seulement collaborer, mais c'est faire œuvre commune pour considérer que la coopération en tant que telle, c'est un projet en soi. Deuxième chose, c'est en tant que financeur, on ne finance pas du projet, on finance de l'ingénierie de projet. Et donc, on ne sait pas au départ à quoi va aboutir la coopération. Et ça, je rebondis sur ce que tu disais, Patrice, on a absolument pas une posture de donneur d'ordre ou une posture descendante en disant nous en tant que financeurs voilà ce qu'on attend à l'issue de la coopération, parce que ça tuerait complètement le projet dans l'œuf. On doit laisser vraiment libre le champ de la créativité et du travail entre les partenaires et les coopérants, mais voilà, on finance de l'ingénierie de projet, donc c'est de l'animation de la coopération, c'est toute la vie de la coopération, mais c'est pas du projet en tant que tel. Et ça, pour notre gouvernance, je disais qu'on s'était formé progressivement, mais c'est important aussi, parce que comment est-ce qu'on explique à des administrateurs? Nous, on a une commission régionale composée de représentants de sociétaires de la Massif, donc dans chaque région. Ça a pris du temps et ça a été un travail intéressant aussi de leur dire, quand vous allez voter pour choisir cette coopération, sachez qu'on n'a aucune idée de ce sur quoi elle va aboutir. Donc c'est pas facile comme message. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à qu'est-ce qui fera que cette coopération a réussi? Est-ce que c'est des critères, parce que c'est pas des critères quantitatifs et qualitatifs habituels. C'est pas l'atteinte d'objectifs prédéfinis ou d'actions qu'on aurait prédéterminées. On s'est dit, par exemple, est-ce que le fait que la coopération grandisse, que d'autres acteurs la rejoignent, ça peut être un gage de réussite qu'on peut se donner, un critère de réussite. Est-ce que la qualité du travail ensemble, alors comment la mesurer? Il y a une vraie réflexion sur l'évaluation de la coopération. Donc je parlais d'ingénierie de projet, de nombre de partenaires, et la troisième chose, c'est le temps long. Et le temps, tout à l'heure, on parlait du temps que prend la découverte des ressources de la pente, de la route en pente. Ça prend du temps de travailler et surtout de se connaître. Et c'est vrai qu'avant de s'engager dans un financement, on peut tout à fait prendre 6 mois, 1 an, parfois, selon la région, pour prendre ce temps d'interconnaissance, de savoir ce qui nous rapproche, parce qu'évidemment qu'au début d'un projet, on a plein de choses à faire ensemble, mais aussi ce qui nous différencie. Et on le disait, entre une entreprise, un acteur public, un bailleur social, une association, évidemment que si on se lance dans une coopération, c'est qu'on a envie d'aboutir aux projets les plus adaptés aux habitants, et nous concernant aux habitants les plus fragiles, mais on a aussi plein de choses qui nous distinguent et qui peuvent même nous opposer, et c'est indispensable de se poser les bonnes questions dès le départ et de se dire il y a aussi des choses qui sur lesquelles on a des cultures de travail différentes et même des intérêts différents. Et se poser les bonnes questions au départ, ça permet aussi de poser les bonnes bases. Et alors, si je retiens peut-être 4 enseignements que je peux vous partager aujourd'hui, c'est que en tant qu'accompagnateur de coopération, nous, on a dû apprendre. Le labo de l'ESS nous a beaucoup aidé, qu'une coopération, c'était beaucoup de choses, et ça existe depuis très longtemps. Donc il y a des PTCE, on a parlé des PETR, des fabriques à initiative, des projets alimentaires territoriaux, les AMAP, enfin, il y a toute forme de coopération, et à chaque coopération, à chaque territoire, son besoin d'accompagnement et de financement. Donc à nous de nous adapter, on a un fil rouge, parce qu'il a fallu savoir par exemple qu'on voulait partir à un minimum de 4 acteurs, qu'on partait d'un diagnostic de besoin objectivé, enfin, on s'est donné quand même une feuille de route, mais les réalités sont différentes et les coopérations prennent des formes très différentes selon les territoires. Je parlais de posture et de culture de la coopération, ça c'est on doit l'apprendre, hein. Nous on n'arrive pas du tout en tant que sachant, on n'est pas du tout des experts de la coopération quand on arrive quelque part, on apprend en faisant, et c'est une vraie expérimentation, ce qui veut dire qu'on prend aussi le risque que des coopérations, je disais parfois on ne sait pas sur quoi ça va aboutir, mais parfois ça peut échouer et c'est ok, enfin, ça fait partie aussi de la demande de notre conseil d'administration, c'est de tenter quelque chose, d'expérimenter. Et si la coopération, peut-être que des partenaires vont s'en retirer, peut-être qu'il va y avoir une difficulté à un moment qu'on ne va pas réussir à surmonter ensemble, et bien, il faut pouvoir accepter ce risque. Et ce que je retiens aussi, ça c'est Ygraine qui nous a beaucoup appris et on a été formé à la maturité coopérative, c'est la question de la dimension humaine, et ce ne sont pas des structures qui coopèrent, mais ce sont des êtres humains, Et voilà, il y a des relations humaines à entretenir. Il y a aussi le fait que des personnes rentrent, enfin, quittent leur structure, par exemple. Une structure peut rester au sein d'une coopération, mais les personnes peuvent bouger. Et ça, c'est la vie de la coopération, c'est un énorme gage de réussite. Et c'est pour ça que l'animation, c'est un vrai métier. Nous, on ne va pas l'assumer au sein des coopérations. Martine l'a fait pendant 10 ans au sein d'un projet alimentaire territorial en Sud-Alsace. Mais là, dans la dynamique qu'on a lancée, on sait que c'est chronophage et que c'est une vraie compétence. Donc on va plutôt s'appuyer sur soit un partenaire extérieur, soit en région PACA, par exemple, à Marseille, l'animation, elle est tournante. Donc les coopérants prennent le lead chaque année pour assumer cette responsabilité. Mais ça peut même être un peu casse-gueule à la fin d'une coopération. On a déjà des exemples parce que l'animation n'était pas portée ou parce que la compétence n'était peut-être pas suffisante, d'une coopération qui tombe. Donc voilà, c'est un vrai...
Merci Ariane, merci pour le clin d'œil à Anne et Patrick Beauvillard et la maturité coopérative. On les avait invités à notre premier forum de la coopération, donc c'est chouette de leur faire ce clin d'œil. Est-ce que, Dominique, tu peux aller sur la slide suivante,
juste pour qu'on
voit les exemples? Oui. Et je vous presse un
petit
peu.
Ça, je l'ai dit, l'ingénierie, le pluriannuel, la recherche de cofinancement qui est importante aussi, mais voilà, c'est toute la montée en compétences qu'on a dû faire pour pouvoir accompagner une coopération. Et je peux vous donner quelques exemples très rapidement pour vous dire que voilà, l'idée pour l'instant de la Fondation Massif, c'est d'accompagner idéalement une coopération par région. Alors chez nous, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire et Bretagne-Normandie sont réunis. Mais voilà, c'est juste pour vous donner des exemples. On pourra en parler tout à l'heure en atelier. Mais ce que je retiens, c'est que c'est des thématiques très différentes, parce qu'évidemment, à chaque territoire, à chaque bassin de vie, ses besoins. Donc on accompagne une coopération sur les métiers du vélo dans le Grand Paris, une coopération en territoire rural autour du PTCE Colina, dans le Bocage Ornais, sur l'écologie populaire en Centre-Val-de-Loire, sur le bien vivre ensemble dans les quartiers prioritaires de la ville de Toulouse, sur les sujets de santé à Marseille, parce qu'il y a une grosse question d'accessibilité à la santé et une question de prévention entre les quartiers nord et les quartiers sud. Et petit clin d'œil à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce que vous disiez de l'habitabilité des villes. Et à Lyon, où il fait une chaleur à crever l'été, la question de comment est-ce que les personnes fragiles s'adaptent aux fortes chaleurs. Au mois d'août, il peut faire plus de 40 degrés. Et donc là, c'est des questions très, très quotidiennes sur comment des ouvriers peuvent travailler plus tôt ou comment les horaires de crèche peuvent être aménagés pour permettre aux personnes les plus exposées de s'adapter. Et c'est intéressant cette coopération parce qu'on travaille avec des entreprises privées. Et donc c'est intéressant aussi de décloisonner parfois l'écosystème de l'ESS dans lequel on se sent bien. Mais les entreprises privées ont aussi des choses à nous apprendre, enfin capitalistes.
Plus proche de nous, l'inter-PAT des Vosges, c'est rigolo parce que je crois justement que les personnes ici qui travaillent sur le PAT du PETR d'Alsace Centrale sont en contact avec le PAT des Vosges pour réfléchir, pour aller s'inspirer un petit peu.
Et si je peux dire en quelques secondes, ce qui est particulièrement intéressant pour cette coopération, c'est, on parlait de regard extérieur, ce qu'on pouvait apporter à une coopération en tant que fondation. On a proposé une méthode de participation des publics, parce que parfois, quand on travaille en coopération, c'est pas évident de faire participer les personnes à qui s'adressent les projets qui sont issus de la coopération. Et donc, c'est une association qui s'appelle Emplette et Cagette, qui propose une méthode qui s'appelle Constat, Analyse, Proposition, et qui permet d'animer des ateliers et de s'assurer que les publics fragiles auxquels vont s'adresser les projets qui sortiront de cette coopération sont vraiment les plus impliqués possibles dans ce travail. Donc voilà, ça c'est un exemple que je trouve intéressant de ce qu'on essaie de garder en tête, à savoir faire participer les publics auxquels s'adressent ces coopérations.
Merci beaucoup Ariane. Patrice, je pense que ce qu'elle vient de dire va t'inspirer.
On a tous envie de dire waouh, il y a un financeur qui a compris à quelle réalité on est confronté. On n'est pas obligé de pipoter notre dossier en disant dans 2 ans on aura fait ci et ça alors qu'on n'en sait strictement rien, mais pour lui faire plaisir. Derrière ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on cherche à faire quand on cherche à innover, en fait, on se confronte à des cadres institutionnels qui sont inadaptés en grande partie. Donc on est obligé de faire avec, on essaye de les faire bouger. On ne sait plus bien passer des marchés quand on veut acheter local de la nourriture, etc. On se rend compte que les marchés tels qu'ils ont été pensés, ou du bois local, on ne sait plus faire, c'est pas fait pour, etc. Et là, de la même façon, on sait qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de financement d'ingénierie, on a besoin de financement de moyen terme pour construire nos aventures collectives dans les territoires. Et on fait face à des financements qui sont aujourd'hui dans des formats particulièrement inadaptés. et aussi avec encore beaucoup, beaucoup d'argent sur le primat du financement de l'innovation technologique. Et il faut voir, ça chiffre très vite hein, quand vous financez une innovation technologique. Hein, c'est des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Et nous, on essaye de gratter 10 000 euros pour essayer de faire vivre notre démarche territoriale. Donc c'est aussi cette réalité à laquelle on est confronté. Et tout l'enjeu, c'est quand même de réussir à faire avec et puis d'essayer de trouver les espaces de transformation pour qu'on aille vers quelque chose qui soit un peu plus facile ou un peu moins compliqué dans nos aventures.
Merci.